Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marine Digabel.
Olivier Germain-Thomas, bonjour.
Bonjour.
Avant d'aborder l'ensemble de votre œuvre et de vos facettes, car il y en a beaucoup, vous avez été couronné par l'Académie française.
Exact.
Pour l'ensemble de votre œuvre.
Oui.
C'est le prix 2006 de l'Académie française. Alors, je disais tout à l'heure que vous étiez un homme à facettes. Alors, parlons d'abord de l'écrivain quand même, hein, de l'écrivain que vous êtes. Que vous êtes avant toute chose, allais-je dire, mais est-ce que vous l'êtes vraiment avant toute chose ?
Bah, ça dépend ce qu'on pourrait mettre avant. Je suis aussi père de famille, amoureux de la vie, amoureux des êtres féminins. Donc, mais ça, ce n'est pas dans la hiérarchie, j'imagine, que vous comptiez établir. Si c'est par rapport à d'autres fonctions, je suis très heureux du métier que j'ai en tant que producteur à France Culture. Mais disons que la vocation profonde qui m'habite depuis l'âge de l'enfance, pourquoi ? Ça, j'en sais rien. C'est d'écrire et avec cette illusion, c'est une illusion, je le sais très bien, mais je vis avec, d'éventuellement laisser quelques pages, voire quelques phrases. Ça, on ne sait jamais, réponse dans 100 ou 200 ans. Mais disons que c'est quelque chose qui me tient au plus profond de moi-même et mes autres activités. J'ai eu des activités dans le domaine de la politique, j'en ai dans le domaine de l'édition, j'en ai dans le domaine des médias, de la télévision à une époque. Ces autres activités me conviennent, mais ne sont pas de l'ordre de la vocation.
Alors, nous allons les aborder, mais vous venez de sortir un livre qui nous a enchantés, il faut bien le dire, Un matin à Byblos, aux éditions du Rocher, et qui est une rêverie sur le Liban, l'écriture, la langue, un peu des femmes d'ailleurs aussi, et surtout vous reprenez une citation de Karl Kraus, « Ce qu'on fait à la langue, tôt ou tard, on le fera à l'homme ».
Alors on peut se demander pourquoi il y a une longue méditation, et parfois même des colères d'ailleurs, consacrée à la langue à partir de Byblos. Et bien tout simplement parce qu'on se trouve sur la seule ville au monde qui a pour nom Livre. Et souvent j'avais vu le nom de Byblos sur des cartes, mais c'est en y allant, à l'occasion de ce magnifique salon du livre francophone qui a lieu tous les ans au Liban, un matin je me suis trouvé tout seul sur ce site, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Je marche sur la ville Livre. Alors à partir de ça, d'une espèce de, oui, d'illumination que j'ai eue, en plus le site n'est pas un des plus beaux sites archéologiques du Liban, ni même de la région. Par exemple, Baalbek est beaucoup plus imposant, et puis il y a des endroits qui ont plus de charme dans tout ce Proche-Orient. Mais entre la mer et la montagne, une journée d'automne, des oiseaux, le bruit des vagues, un peu de vent, j'ai senti que le passé remontait. Et toutes ces figures mythiques qui sont présentes sous la terre de Byblos sont revenues comme ça dans mon imagination. Alors j'ai marché toute la matinée. J'y suis revenu ensuite l'après-midi. Le livre s'intitule « Un matin ». En fait, c'était une journée complète.
Oui, j'allais demander pourquoi un matin d'ailleurs, pourquoi
ça
pas
sonne
un soir
mieux,
à Byblos.
Oui, ça sonne mieux qu'une journée à Byblos. Journée à une sorte de hiatus, voilà. Le titre qui m'est venu, c'est « Un matin à Byblos ». Il y a une sorte de musique, vous voyez. En fait, c'est une journée.
C'est aussi un livre très lumineux, parce que justement, vous auriez pu dire, alors là, ça sonne bien, « Une nuit à Byblos ». Or, c'est un livre qui est très lumineux. Il y a beaucoup de lumière dans ce livre.
Oui, vous avez raison, parce que le soleil était présent. Il y a,
oui, vous parlez du soleil,
voilà,
il y a beaucoup.
Il y a la mer, et puis il y a un enthousiasme. L'enthousiasme est quand même plutôt du côté du jour que du côté de la nuit, même s'il y a parfois des enthousiasmes nocturnes. Cela dit, le livre se termine quand même au moment où le jour tombe, et même d'ailleurs on obtient, un Chinois que j'ai rencontré là-bas, on obtient, lui et moi, grâce à lui, parce qu'il connaît bien le gardien, la possibilité de rester après la fermeture. Donc on voit quand même Astarté, on voit les premières déesses de la nuit apparaître sur le site. Donc c'est vraiment tout le cycle jour-nuit qui s'accomplit sur ce tertre. Alors c'est très curieux parce que Byblos est très souvent cité dans des textes grecs, textes phéniciens, etc. On sait le rôle qu'a eu Byblos dans le commerce du papyrus avec l'Égypte, acheter du papyrus en Égypte pour permettre à Platon d'écrire ses livres. Mais on avait perdu la trace de Byblos. Et il a fallu que ce soit Ernest Renan, tout jeune, qui était très très compétent dans toutes les langues sémitiques, donc qui avait été envoyé par Napoléon III au moment d'une expédition française faite dans ce qu'on appelait le Proche-Orient ou la Palestine à ce moment-là. C'est lui qui, avec son génie de fouineur, a dit « ça pourrait être là ». Et donc, comme l'armée française était présente, pauvres paysans, on leur a abattu leur maison, on a creusé et on a retrouvé des restes romains, des restes grecs, des restes phéniciens bien sûr, des restes byzantins, des restes encore plus anciens, des restes égyptiens, jusqu'aux périodes préhistoriques. Donc c'est véritablement comme une sorte de millefeuille qui résume à peu près 6000 ans de civilisation en Méditerranée. C'est assez fascinant pour quelqu'un comme vous qui défendez tellement la culture méditerranéenne.
Surtout, si je ne m'abuse, il y a aussi des fossiles. Il y a même des fossiles dans la pierre à Byblos, ça je me rappelle ça. Et alors quand vous parlez de la fin du livre, alors là restons à 2 secondes sur la fin du livre, si je puis dire, parce que d'abord vous rencontrez un Chinois, ça peut, je suppose pas par hasard que vous rencontriez un Chinois.
Le hasard existe ?
Oui, s'il était responsable de tout ce qu'on lui attribue, il s'appellerait Dieu, comme disait Champfort. Mais le hasard, c'est vous qui le créez, puisque vous l'écrivez quand même. Et vous avez choisi cette scène où
l'écrivain a quelques droits.
Où vous choisissez de parler latin, si je me rappelle bien.
Ben, je choisis, ça c'est un peu
vous
imposé.
Vous comprenez
parce
en latin.
Que, oui, oui. En fait, commence à me parler, je crois en chinois. Bon, moi je lis quelques idéogrammes, je ne peux pas parler en chinois. Ensuite, naturellement, il se met à l'anglais.
La langue de Mickey, dites-vous.
Voilà. Oui, en plus c'était avec un accent américain, je respecte très profondément, j'ai une grande passion pour la littérature anglaise, mais je pensais qu'à Byblos, après une longue méditation sur les cultures méditerranéennes, je ne souhaitais pas que notre dialogue s'établisse en anglais. Alors je lui dis non, je lui lance en italien, je vois qu'il ne comprend pas. Je fais semblant de bien parler le sanskrit, que j'arrive un petit peu à lire, mais sûrement pas à parler. Lui dit non. Alors de langue en langue, on finit par s'envoyer des langues qu'on ne connaît pas, d'ailleurs des mots de langue qu'on ne connaît pas, et à ce moment-là, je m'énerve un peu en disant « mais enfin quand même, c'est Mare Nostrum qui se trouve là ». Je le dis en latin, il me répond en latin, et donc le dialogue s'établit en latin. Que le lecteur se rassure, c'est du latin de cuisine, et en plus il est traduit.
Et vous parlez en date aussi. Lui choisit sa date, je crois, et vous choisissez votre date.
Oui, c'est un autre épisode, il y a quand même quelque chose de très étrange dans tout site archéologique et particulièrement à Byblos, c'est quand vous vous trouvez devant une excavation et il y en a là où se trouvaient des sarcophages des premiers rois, là où se trouvaient certains des sarcophages des rois de Byblos, vous avez un résumé de 3-4 000 ans d'histoire. Donc en bas, les origines de la civilisation, en haut, la période contemporaine. Et on peut s'amuser, et c'est ce que nous avons fait ce Chinois et moi, de mettre un petit signe à une certaine époque pour troubler les archéologues du futur. Et c'est ce que nous faisons. Donc moi je mets un petit signe quelque part. Chacun devait trouver un mot. Donc lui trouve son mot, le mot porte, et moi je trouve un autre mot. Je vais peut-être oublier le mot, ou j'ai dû mettre le mot porte, enfin peu importe. Chacun essaie d'inscrire sur une tablette en argile le mot, on le glisse et on se dit que les archéologues du futur élaboreront des théories extrêmement poétiques à partir des mots que nous avons glissés.
C'est voilà, l'inverse finalement du message de la NASA à destination des étoiles. C'est assez beau. Vous allez dans les profondeurs de la Terre,
voilà,
au plus profond.
Les profondeurs du temps. Oui.
Alors, est-ce un hasard, dans le livre vous le dites bien sûr, est-ce un hasard si c'est le frère d'Europe, Cadmos, qui a inventé l'écriture dans la légende.
C'est lui qui l'a transmis, l'écriture.
Oui, qui a transmis, pardon.
En fait, l'écriture qui est notre écriture, ce qu'on appelle l'écriture latine, que les Japonais appellent Romanji, l'écriture romaine en quelque sorte, vient, comme on le sait, de l'écriture grecque. Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'écriture grecque vient très directement de l'écriture phénicienne. Sauf que les Phéniciens étaient des sémites, et donc ils écrivaient de droite à gauche, comme toutes les langues sémitiques, que ce soit l'hébreu, l'arabe, ou le phénicien, ou l'araméen, et que les grecs écrivaient de gauche à droite. Mais si vous prenez les lettres phéniciennes et si vous les retournez, vous arrivez à reconnaître assez facilement les lettres grecques. Et les grecs, qui avaient parfois beaucoup d'orgueil et qui se prenaient pour le centre du monde, ils n'étaient pas le seul, fermez la parenthèse, mais ont reconnu, à travers leurs mythes, et c'est une vérité historique, que l'écriture n'a pas été inventée par eux, l'écriture dont ils se servaient, mais que cette écriture alphabétique venait des Phéniciens. Et il s'agit donc d'un personnage historique ou mythique, Cadmos, qui aurait apporté, qui aurait fait don de cette écriture aux Grecs. Et il y a d'ailleurs...
À l'Europe, sa sœur.
À l'Europe, sa sœur, oui. Oui, parce qu'il était venu chercher l'Europe qui avait été enlevée. Oui, son père l'a envoyé en disant, dis donc, ta petite sœur a été enlevée, va la rechercher. Donc, et d'ailleurs, il est devenu un roi ou un roitelet en Grèce ensuite. Voilà, il y a une petite plaque au Louvre où l'on voit Cadmos apportant l'écriture alphabétique aux Grecs. Parce que l'écriture phénicienne n'est pas du tout la première écriture de l'histoire. Toutes les premières écritures de l'histoire étaient des écritures de type idéographique, ou pictographique. C'était des signes, et chaque signe représentait une chose. Le génie phénicien a été de simplifier ce mode de communication en disant on ne va pas représenter la chose, on va représenter le son. En fait, il y a eu d'autres tentatives avant, notamment dans le Sinaï, il y a eu d'autres tentatives, mais ces autres tentatives n'ont pas abouti. En revanche, c'est cette écriture de ce peuple qui n'a pas laissé de monument, mais qui a été génial ne serait-ce que pour cela, les Phéniciens, qui ont été de très très grands commerçants allant jusqu'à fonder Carthage, c'est ce peuple qui a donné l'écriture qui maintenant se répand dans le monde entier.
Alors, de la Grèce antique, vous êtes passé à une défense virulente du français. Si je puis dire, je fais un saut dans le temps, là, bien sûr. Mais enfin, ça n'est pas si éloigné que ça de ce que nous voulons dire. Donc, pourquoi, tout d'un coup, avez-vous pris fait et cause pour ce français langue de l'Europe ?
Alors, ce n'est pas tout d'un coup. En fait, le tout d'un coup doit s'appliquer au lieu. Effectivement, dans ce lieu plein de poésie, de rêverie, etc., à un moment donné, je suis énervé de penser qu'on est le fruit de cette très grande culture méditerranéenne, que l'Europe, la figure même mythique de l'Europe vient de là, et que maintenant, l'Europe se fait en anglais. Et je pense que la France aurait dû, devrait, dans le présent, et devra dans l'avenir, pour rester digne d'elle-même et de son propre passé et de sa dignité, imposer le français comme seconde grande langue de communication à l'intérieur de l'Europe. Et je ne dis pas simplement à l'intérieur des communautés européennes, mais pour les peuples européens. Il est normal que chacun des pays de l'Europe puisse garder sa langue et que chacune des langues soit langue officielle. Mais on sait très bien que toutes ne peuvent pas être parlées dans tous les établissements publics de la communauté européenne. Et à l'heure actuelle, c'est l'anglais qui est en train de s'imposer. Et les gouvernements français précédents, quels qu'ils soient, de droite, de gauche ou de nulle part, ont malheureusement laissé passer une grande chance. Et il s'agit maintenant de lancer un combat pour que le français retrouve une place à égalité avec l'anglais au sein de l'Europe. Sinon, on va former un très grand ensemble euro-atlantique et l'Europe perdrait en quelque sorte son âme méditerranéenne. Parce qu'avec le français...
Pourquoi le français et pas l'italien, par exemple?
Parce que le français est une des langues importantes dans le monde, est une la deuxième ou troisième langue.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Rénac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des Sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des Beaux-Arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Olivier, je voudrais simplement lire ce passage de votre livre et de votre citation de Chateaubriand. Quelle serait une société universelle qui n'aurait point de pays particulier, qui ne serait ni française, ni anglaise, ni allemande, ni espagnole, ni portugaise, ni italienne, ni russe, ni tartare, ni turque, ni persane, ni indienne, ni chinoise, ni américaine, ou plutôt qui serait à la fois toutes ces sociétés? Qu'en résulterait-il pour son intelligence, ses mœurs, ses sciences, ses arts? Sa poésie, dit Chateaubriand dans les Mémoires d'outre-tombe.
C'est pas mal vu contre la mondialisation.
Oui, et vous reprenez en disant « L'Europe, une pièce montée appétissante avec des saveurs artificielles, elle a été un des trois ou quatre pôles majeurs des cultures mondiales et le seul à avoir, un temps, dominé tous les continents. » Alors, est-ce que vous êtes donc d'accord avec Chateaubriand ?
Ah ben, je pense que les spécificités, les natures de chaque peuple doivent garder. Il y a un immense espoir à l'heure actuelle qui est effectivement la possibilité que nous avons de pouvoir rencontrer les autres civilisations, de nous enrichir avec les autres civilisations et de perdre cette espèce de superbe qu'ont eu d'ailleurs pas seulement les Européens, les Chinois l'ont eu de leur côté, les Indiens l'ont eu de leur côté, de croire qu'on est la seule civilisation, le seul modèle d'accès à l'amour, au monde, au temps, etc. Donc on s'aperçoit qu'il y a des quantités de modèles, que chacun a éventuellement sa raison d'être, sa justification, donc c'est une aventure passionnante, ce dialogue des civilisations. Mais il ne faut surtout pas aboutir à une éradication des différences. Et malheureusement, les deux mouvements sont concomitants. C'est-à-dire, d'un côté, on a effectivement cette possibilité qu'on n'avait jamais eue avant de pouvoir pénétrer dans un monastère taoïste au fin fond de la Chine, d'y vivre et de sentir que quelque chose qui n'a jamais été développé à l'intérieur de sa conscience peut s'éveiller. Mais d'un autre côté, quand vous allez dans les aéroports ou les grandes surfaces, que ce soit d'ailleurs en Inde, en Chine ou ailleurs, au Japon, je suis allé dans tous ces pays d'Asie, et bien vous trouvez les mêmes musiques stupides, les mêmes produits qui n'ont aucun sens, aucun goût. Donc tout ça est scandaleux. Il faut arriver à établir un dialogue racine contre racine, comme disait Malraux, en gardant nos spécificités et en restant ouvert aux autres. C'est difficile, c'est beaucoup plus facile effectivement, soit de dire « seules mes propres valeurs existent et les autres sont méprisables » et je leur tire dessus, ou bien de dire « tout ça n'existe pas » et on fait une espèce de melting pot généralisé qui n'a aucun goût. Donc ce qui est souhaitable est le plus difficile, mais on n'a pas le choix. Si on veut maintenir la dignité de l'être humain, on n'a pas le choix.
Et Malraux disait même que c'est de là que surgirait ce qu'il appelait un surgissement mystique, je crois. Et il disait même, alors une chose très belle, c'est que nous en sommes aux prémices de on ne sait pas bien quoi, comme on sait qu'un orage va arriver, mais on ne sait pas bien lequel, en sentant l'électricité dans l'air, quelque chose comme ça. Il y a une très belle phrase de Malraux
dans un entretien avec vous. On avait inventé le paratonnerre sans connaître bien les lois de l'électricité, donc il pense que, ça c'est à propos du retour du spirituel chez Malraux, Il voit les signes d'un retour, d'une métamorphose, comme il le dit lui-même, sans très bien sentir quelle forme cela va prendre.
J'en parlais à propos du rapprochement Orient-Occident, hein, parce qu'il en parle lui aussi beaucoup, avec la tentation de l'Occident, que vous avez démarqué d'ailleurs, parce que vous avez écrit la tentation des Indes. Voilà. Oui. Alors oui, je voulais vous interroger là-dessus, vous avez écrit bien des ouvrages sur l'Orient. Et au fond, en relisant vos titres, ils m'ont laissé un peu rêveuse parce que vous dites le voyage des Indes, la traversée de la Chine à la vitesse du printemps, en chemin vers le Bouddha, la tentation des Indes, image découpée en Birmanie, mosaïque du feu. Et tous ces titres donnent le sentiment paradoxal à la fois de l'éternité et de la fugacité. De l'élan vers l'infini et de quelque chose qui finit quand même, puisque c'est un peu fragmenté. Alors, est-ce un parcours sans cesse recommencé pour vous ? Parce que c'est étrange, ce chemin vers la sagesse, et puis le retour, et puis un autre chemin, enfin, qui est toujours le même, bien sûr.
Je n'ai pas atteint la sagesse, je le sais, et vous avez raison de souligner que ce que je sens, et en cela d'ailleurs, je me sens en proximité, je ne dis pas de talent, mais en tout cas en proximité de démarche avec quelqu'un comme Montaigne, c'est-à-dire que je reste à cheval, curieux des autres cultures, et notamment des cultures asiatiques, mais pas seulement, ça m'est arrivé aussi de traverser l'Amérique du Nord, mais je n'ai pas de réponse, et je me promène avec des points d'interrogation, donc un point d'interrogation, une question attire une autre question qui ouvre d'autres portes. Voilà, donc c'est pour le moment. Le trajet n'est pas fini, peut-être que le jour où il sera fini, il n'y aura plus d'écriture. Et c'est peut-être dans cette tension de l'absence de réponse que se glisse le livre, d'ailleurs. Le jour où je dirai « c'est ça », peut-être qu'il n'y aura plus que trois mots d'un poème. Voilà, la chose sera accomplie, mais c'est inaccompli. C'est inaccompli, mais je ne dis pas ça du tout en étant désespéré. Mais si une réponse arrive, elle arrive, tant mieux. Enfant, j'ai une réponse, celle qui m'a été donnée par ma culture chrétienne. J'ai pour le moment beaucoup plus de tâtonnement, d'instabilité que de réponse. Et ça me permet d'ailleurs d'avoir toujours l'appétit de découvrir une nouvelle culture.
Vous dites d'ailleurs, je crois, une fois que vous pratiquez la philosophie par les pieds.
Oui, ça veut dire que j'aime beaucoup les livres. On parle des livres à Biblos, bien sûr.
Et que... c'est par les pieds, puisque vous marchez dans le
oui,
livre.
C'est, oui, c'est des Biblos. Mais oui. Je veux dire, j'ai aussi, bon, grande bibliothèque, beaucoup de lectures, etc., etc. Mais ce qui m'a permis le mieux de comprendre les passions qui traversaient les êtres humains, les différences de civilisation, c'est quand je suis allé vraiment sur place. C'est très bien de lire un livre sur le taoïsme, mais rencontrer un taoïste, vivre avec lui, voir quels sont ses gestes, son rapport au monde, son rapport au thé, son rapport au ciel, son rapport à l'oiseau qui passe d'une manière fugace dans le ciel, c'est une leçon, à mon avis, bien plus forte que tout livre de philosophie.
Oui, vous dites d'ailleurs à un moment donné que notre temps est linéaire et que le temps que vous vivez en Orient est cyclique et circulaire.
C'est ce que pensent les orientaux. Je ne suis pas sûr d'être arrivé à intégrer totalement la réalité du temps cyclique. Je suis quand même en train de guetter l'autobus quand il n'arrive pas, et Dieu sait s'il y en a. Il faut avoir une patience, on a beau se dire « Oh, le temps est cyclique, je vais attendre 4 heures dans cet endroit en plein soleil, sans avoir d'eau et entouré de moustiques, et je vais être parfaitement heureux parce que tout ça n'est qu'une illusion et n'est cyclique. » Non, non, ça ne marche pas.
Vous savez que c'est ce que répondait Bachevitz Singer quand on lui demandait s'il était fataliste et s'il croyait que tout était écrit. Il disait que oui, mais quand le feu passe au vert, il court quand même pour atteindre le trottoir.
Oui, on est toujours coincé entre les deux. Cette idée quand même, surtout avec l'âge, qu'il y a quand même un destin, qu'il y a quand même des choses qui sont jouées depuis longtemps, et cette idée qui fait qu'on agit, sinon on resterait assis en train d'attendre genre que les choses arrivent.
C'est
cette
pas
idée
votre genre, oui,
qu'il y a des moments où il y a quand même des décisions à prendre, et que de cette décision, l'avenir peut dépendre.
Vous êtes d'ailleurs prix Phoenix, je crois, le bien nommé prix Phoenix 2005, donc il y a de l'espoir de renaissance. Alors, vous avez aussi produit donc des émissions sur France Culture, plusieurs, et vous êtes attaché dans les émissions télévisées à des aventuriers de l'esprit qui ont été des épris d'absolu, comme Simone Veil, Mishima et même, à notre degré, Le Clésio. Alors, qu'est-ce que vous a apporté? Au fond, on ne parle jamais de l'exploration médiatique, qui est autre chose, un jeu sur les mots tout autre que l'écriture. Est-ce que votre carrière, disons, votre parcours d'homme de radio et de télévision vous a apporté autre chose que pour écrire?
Certainement. D'abord, des rencontres. Vous citez des émissions de télévision. Là, ce sont des émissions de télévision en dehors de Jean Grosjean. Les écrivains dont j'ai essayé, avec des réalisateurs, de tracer le portrait étaient des écrivains connus et reconnus. J'ai fait aussi une grande émission sur les portraits croisés de Gaulle, Malraux. Donc ça, il n'y avait pas de découverte nouvelle, c'était plutôt un acquis que j'essayais de mettre en image. Mais à la radio, grâce à cette liberté extraordinaire qui règne à France Culture, j'ai pu faire des rencontres tout à fait étonnantes et avoir le plaisir, dans certains cas aussi, parfois, d'inviter des écrivains qui n'étaient pas du tout connus, mais dont le destin me semblait intéressant, en tout cas à faire entendre aux autres. Et puis alors, je crois, d'un point de vue pratique aussi, que l'art du montage, aussi bien radiophonique que en télévision, a pu modifier mon écriture, car en tout cas la radio dans ce qu'elle a de créatif, l'entretien l'est sur un plan des relations humaines et sur un plan intellectuel. Il n'est pas en tant que langage radiophonique, mais il y a des émissions qu'on peut faire dans des pays, comme par exemple dans les îles grecques, pour essayer de faire sentir l'esprit d'une île grecque, où là justement il y a un travail très subtil à faire, parce qu'un travail de sculpture sur le son lui-même. Vous avez le bruit d'un café, vous avez le bruit du vent, vous avez des textes anciens, vous avez le grec d'aujourd'hui, vous avez le grec chanté, vous avez les ramasseurs d'éponges, vous avez des enfants dans une école. Et tout cela se monte, s'organise, en pensant à cette magnifique phrase de Mozart, « J'assemble les notes qui s'aiment », donc faire en sorte que le son d'une éponge aime le son d'une classe, aime le son du vent, aime le son d'un caïque qui s'en va au large. Donc là, grâce à des réalisateurs et ensuite en mettant moi-même un peu la main à la pâte, il y a quelque chose que j'ai appris sur des assemblages qui ne sont pas des assemblages spéculatifs, mais qui sont des assemblages sensibles, poétiques, musicaux. De même en télévision, vous savez très bien que vous pouvez avoir deux images très très fortes qui intellectuellement devraient se mettre côte à côte. Si elles ne se marient pas souplement plastiquement, selon leur propre plastique, vous ne pouvez pas les mettre l'une à côté de l'autre. Donc il va falloir trouver quelque chose pour que ça coule, comme un fleuve, vous voyez, comme une musique, comme une danse, comme un jeu d'enfant. Et ça, pour cela, les médias, dans la mesure où ils sont créatifs et non pas simplement des médias de type journalistique, les médias culturels, la radio et la télévision, sont une très bonne école.
Est-ce que vous croyez, parce que vous parlez beaucoup des programmes, d'ailleurs dans votre livre, vous parlez, vous abordez l'enseignement qu'on devrait donner aux enfants d'aujourd'hui, avec beaucoup de force d'ailleurs.
Je trouve que l'enseignement de la littérature française...
Je crois que vous avez écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, Marion, non ?
C'est ou le corps enseignant, oui. Oui, c'est pas exactement sur la transmission, mais c'est une histoire d'amour entre une jeune femme professeure et un de ses élèves, Beur. Mais je suis effaré, ayant justement des enfants qui ont passé le bac de français, des amis d'enfants, des neveux, etc. J'ai dû repasser mon bac 5 ou 6 fois, effaré par la manière dont la littérature française était enseignée, de quoi dégoûter ces petites têtes de la littérature française. On leur faisait démonter les phrases, les champs sémantiques, avec un langage absolument abscon, au lieu de leur donner le plaisir du texte. Vous prenez un texte de Baudelaire, et vous allez devant une classe de banlieue, et vous faites vivre cette classe devant ce texte. Je prends le pari qu'on m'invite où on veut dans un collège de banlieue, qu'on me laisse du temps, et on peut les faire vibrer. Mais la façon dont la langue française, la littérature est enseignée, il y a de quoi vraiment être dégoûté.
À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans ? Sur quoi faudrait-il revenir d'abord ?
Le plaisir du texte, le plaisir de la littérature, et montrer que tout grand texte littéraire est un enseignement, que les grandes questions que se posent ces jeunes, que ce sont des questions de l'identité, ce sont des questions de relation à l'histoire. Dans les banlieues, c'est beaucoup des questions de relation à une autre culture, que ces grandes questions sont posées par la littérature et dans un langage différent, dans des situations différentes. Ce ne sont pas les réponses qui sont forcément données, mais la question au moins est posée. Et ça les concerne directement. Et la façon dont les femmes aiment dans Racine est une façon qu'une petite beurette d'aujourd'hui de 17-18 ans peut aimer de cette manière-là, peut avoir ces mêmes relations passionnelles.
Ah, il y a eu un film sur Marivaux tourné, vous
magnifique,
savez, par des gens
magnifiques. Comme idée, faire jouer du Marivaux à des gens des banlieues et leur faire comprendre que...
Marivaux d'âge.
Voilà, et que cela existe sous des formes complètement différentes aujourd'hui, très bien. Et puis, même si ça n'existe pas aujourd'hui, le fait que ça ait existé est un enseignement magnifique. Donc, il faut mettre de l'enthousiasme dans la transmission de la littérature, d'où certaines des propositions que je fais, de faire venir plus de comédiens, de faire venir plus d'écrivains. On le fait, mais pas suffisamment. Et de faire vibrer les textes, et non pas les décortiquer avec un langage de pédant. Beaucoup de ces professeurs, malheureusement, beaucoup sont très dévoués, mais beaucoup ont des langages de pédants décalés complètement de ce qui doit être un moment de grand bonheur et d'enthousiasme.
Alors, comme vous avez un ton gaulien, littéralement, je voudrais quand même parler un tout petit peu de votre époque, l'époque où vous avez été directeur ou délégué général de l'Institut Charles de Gaulle. Oui. Voilà, vous aviez été nommé en 70 par Malraux. Vous avez écrit aussi un Charles de Gaulle avec Barthelet.
Oui.
Vous savez que les Écossais disent, paraît-il, qu'ils ont inventé Dieu pour avoir quelqu'un de vraiment sérieux avec qui parler. Alors, est-ce que vous, Olivier Germain Thomas, vous avez inventé De Gaulle pour avoir quelqu'un de sérieux avec qui parler ?
Non, il s'est inventé tout seul, vous savez, rassurez-vous, il existe vraiment. Oui. On peut se poser la question sur l'existence de Dieu, mais pas de De Gaulle, il est là. Il a quand même, on va pas revenir sur ce qu'il a fait en 40, mais je veux dire, avec rien, avoir été capable de redresser la France qui était complètement avachie, et ensuite de nous avoir donné à nouveau une mission dans le monde, eh bien, c'est quelque chose qui a enthousiasmé mon enfance.
Et vous avez l'un des derniers dialogues avec Malraux, je crois, d'ailleurs.
Oh, je ne sais pas si c'est un des derniers, mais du fait que j'avais des responsabilités à l'Institut Charles de Gaulle, j'allais le voir assez régulièrement pour lui parler des affaires courantes. Et puis, les affaires courantes, vous savez, avec lui, ça valsait assez vite. Oui. Et après, on repartait dans les grands mythes de l'Inde, et Nabucodonosor, ou bien les rois du Moyen-Âge.
Est-ce qu'il vous a impressionné, Malraux ?
Ah oui, énormément. J'ai vu fonctionner le génie. Je l'ai rarement vu dans ma vie à ce point-là. C'est-à-dire la capacité d'aller toujours au cœur des choses. Avant même qu'on ait terminé la question, il voyait où nous en étions quel était le problème qui était posé, il y répondait avec une espèce de saccade d'images merveilleuse. Il y a chez lui une œuvre orale qui n'a pas la densité de l'œuvre écrite, mais qui est très très grande et très importante. Alors, on le voit à travers les Horizons funèbres, mais on le verra de plus en plus à travers les entretiens qu'il a eus. Il en a eu des centaines.
Avec Santelli, ça se voyait, oui.
Santelli, oui. Guy Suarez, Roger Stéphane, etc. Où là, il y a un génie de la répartie d'images qui est absolument magnifique.
Oui, est-ce que nous avons toujours des exemples de ce genre à donner aux enfants?
Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais il y en a eu à travers l'histoire. Il y a toujours eu à travers l'histoire des hommes qui ont été capables de se situer au-dessus de la mêlée. Parmi les écrivains d'aujourd'hui, je n'en vois pas. Cela dit, il y a des êtres qui, après la disparition de Malraux, ont quand même suscité mon admiration. Je citais Jean Grosjean, qui était un de ses amis, bien qu'il fût à l'opposé. Autant Malraux aimait le pathétique, et parfois d'ailleurs un pathétique qui était un peu poussé. Hein. Je l'aime suffisamment pour pouvoir le critiquer. Autant Jean Grosjean était dans l'intériorité la plus complète, la foi la plus solide, et puis un homme d'une très très grande culture méditerranéenne, ayant traduit de l'hébreu, de l'arabe, du grec, du latin, etc. Donc vraiment un homme de très très profonde culture, homme admirable, mais sur un plan tout à fait différent de celui de Malraux.
Alors, dernière question, Olivier Germain-Thomas, certains disent, on revient au livre, certains disent que le livre est condamné. On parle du livre électronique, du livre qui ne se feuillettera plus. Est-ce que vous pensez, comment peut-on sauver Biblos?
En donnant de l'enthousiasme à l'étude littéraire. Et je pense que la situation a vécu sans livre. Elle pourra vivre avec moins de livres. Elle ne pourra pas vivre avec moins de littérature. Entendons-nous bien. La transmission peut se faire indépendamment du livre. J'aime le livre, je suis de cette génération-là. Mais dans 100 ans, on peut imaginer une très grande culture dans laquelle le livre n'est pas l'importance qu'il a aujourd'hui, mais il faut que le récit, le mythe, l'imagination, la beauté de la langue, la musicalité de la langue continuent à enchanter les êtres humains, comme d'ailleurs il les a enchantés avant même l'existence du livre. Imaginez quand même que Homère nous est arrivé en livre, mais était psalmodié, chanté, vécu, bien avant qu'on en ait des exemplaires en livre, et tous les grands textes sacrés ont été ainsi. Donc le problème n'est pas tant le livre, le problème c'est l'imagination, c'est la poésie, c'est l'art du récit. Il est évident que si nous sommes tout le temps prisonniers d'images qui s'imposent à nous, notre imagination va s'atrophier. Là est le danger, beaucoup plus que la modification du support du livre.
Et l'écriture, parce que ça n'est pas tout à fait la même chose. Il y a la tradition orale et la tradition écrite, or ça n'est pas tout à fait les mêmes civilisations. Donc est-ce que nous allons retourner à des civilisations orales?
Ça, je ne suis pas prophète pour savoir ce qui va se passer dans 200 ans. La seule chose que je dis, et pardonnez-moi si je me répète, c'est que cette fonction de l'imaginaire est indispensable à l'homme, indispensable qu'il ait la capacité lui-même de la recréer. Et c'est là où l'image est perverse. L'image est enrichissante, mais s'il n'y a que l'image, il est évident que le cerveau s'atrophie. Il faut qu'il y ait à un moment donné le son ou la lecture pour que nous puissions nous-mêmes inventer cette image. La plus belle télévision, c'est la nôtre, c'est la télévision intérieure. Et c'est celle-là qu'il faut maintenir.
Olivier Germain-Thomas, merci. Et peut-être à bientôt.
Merci.